Bonjour, bienvenue au Brest Japan Festival, où en fait nous allons interviewer Juliette Fournier. Bonjour Juliette.
Bonjour.
Donc tu nous viens de Rennes, après avoir fait un petit voyage en train, pour nous parler de ton premier roman graphique.
Oui, voilà.
Donc Morphine, sorti aux éditions Emmanuel Proust. On lit partout que Morphine est ta première BD, mais en fait c'est faux.
Ah bon?
Bah oui.
C'est faux?
C'est faux. Tu as créé Juliette et Camille le sac d'or.
Oui, quand j'avais 8 ans, effectivement.
Mais voilà, donc elle... ça n'a pas été édité, c'est
non,
clair.
Non, elle n'a pas été publiée.
C'est voilà, mais déjà, on voyait que là, tu as lu des classiques puisque c'est issu de Tintin au Congo.
C'est pas ma meilleure BD. Hein. Je ne sais pas ce qu'elle vaut actuellement. Je serais peut-être un petit peu plus critique avec, avec moi qu'à l'époque.
Tu ne l'as pas amenée en exposition?
J'aurais pu, mais après tout, je préfère garder ça pour moi. Et bon, peut-être qu'un jour, je l'exposerai, je ne sais pas. Pour l'instant, je n'ai pas assez de recul dessus.
Il y a presque 4 ans, sortait ton premier bouquin, « Quand je serai grand, je serai pilote » aux éditions A Cappella. Mais déjà, tu comptais monter un projet BD. Donc okay. C'est un projet de longue haleine.
Oui. Parce qu'en fait, c'était mon projet de fin d'année d'école d'art, en fait. Parce qu'à la fin de l'année, il fallait présenter donc quelques planches pour recevoir un diplôme en fait, de fin d'année. Et donc, du coup, j'avais fait quelques planches et ça a été bien accueilli. Et j'ai décidé, du coup, d'en faire un vrai projet de bande dessinée.
Bah oui, mais bon, tes études, c'était les études d'art. Mais section bande dessinée aussi.
Oui, c'était une section bande dessinée.
Voilà, donc il y avait quand même au moins un projet de longue haleine sur la bande dessinée depuis longtemps. Une première BD donc, faite à 8 ans, des classiques qui étaient lus aussi. Donc il y avait quand même...
Tu
avais l'ambition au moins de devenir auteur de bande dessinée.
Ah oui, oui. J'ai toujours voulu m'orienter, en tout cas, dans cette filière... Enfin, au début, je ne savais pas vraiment si j'aurais pu faire animation. Mais finalement, la bande dessinée, c'était vraiment ce qui me permettait d'être le plus libre et de pouvoir toute seule faire un projet d'auteur.
On parle de BD, mais c'est vrai que tu es plutôt influencé manga et Japanimation.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai. Alors, pourquoi, dans ce cas-là, ne pas avoir fait de manga?
Bah, ça, c'est aussi un problème, je pense, dans l'édition en France. C'est pas facile à mon avis, on en est qu'au début en fait. Il y a eu des essais de manga français, disons il y a quelques années, mais les ventes n'ont pas été extraordinaires et du coup les éditeurs sont un petit peu réticents en fait à sortir vraiment des vrais formats manga. Et moi ce qui me plaît en fait aussi dans un format un peu hybride de roman graphique, c'est qu'on peut aussi travailler la couleur mais où il y a une densité de pages plus élevée, ce qui fait qu'on peut raconter plus de choses.
Tu le dis, c'est que d'un côté, tu aimes bien le manga dans tout ce qui est le côté graphique du manga, le côté mouvement, le côté cinématographique.
Oui, c'est surtout ça. Ouais.
Voilà. Et de l'autre côté, il y a le côté richesse visuelle de la bande dessinée franco-belge.
Voilà, c'est ça.
Donc, comment tu qualifierais ta BD? Moi, par rapport à ta BD, j'ai été voir sur... différents sites, ils disent bande dessinée, ils disent roman graphique, ils disent manga, j'ai même vu du manga fusion, c'est-à-dire un manga à la française, et toi, tu le définirais comment?
Je sais pas vraiment, en
c'était
fait.
C'était une chose.
Voilà, c'est, pour moi, c'est... oui, c'est une bande dessinée d'influence, on va dire... peut-être étrangère, mais qui est avant tout, française.
Tu as été édité chez Emmanuel Proust. Comment a-t-il réagi quand tu lui as présenté le projet?
Ah bah, il a répondu, je crois, peut-être une semaine après, et il était vraiment très enthousiaste en disant « Oui, c'est vraiment un coup de cœur, donc ça lui a vraiment beaucoup plu, en fait, les planches que je lui ai
Et alors, par rapport au produit fini, donc le pitch que tu as présenté, je pense que tu as présenté aussi des illustrations.
Oui, j'ai présenté une illustration de couverture et le design des personnages et avec quelques planches, en fait, histoire de montrer un peu la narration et l'ambiance.
Donc c'est déjà aussi ce qu'on voit au premier étage à l'exposition.
Oui.
D'accord. Est-ce que tu avais contacté d'autres éditeurs?
Oui.
Est-ce qu'il y a eu d'autres réponses?
Il y a eu des réponses, mais elles n'étaient pas positives. Enfin, elles étaient positives dans le sens où il y en avait qui étaient intéressés, mais pour eux, c'était pas assez commercial, on va dire. Je pense ça rentrait pas dans leur case.
Les fameuses cases.
Voilà, c'est ça. C'était, on ne sait pas pour qui c'est. Est-ce que c'est pour les enfants? Est-ce que c'est pour les adultes? Est-ce que c'est pour les adolescents? Est-ce que vous ne devriez pas rajouter une histoire d'amour? Est-ce que... Enfin, beaucoup de choses, en fait. C'est voilà. Pas assez stéréotypé. C'est pas assez, voilà.
Justement, est-ce que tu penses que ta bande dessinée a une cible?
Non, j'ai jamais pensé à cibler ma bande dessinée vers un public particulier parce que je pense que ce serait un peu une erreur. Et j'ai essayé de faire quelque chose qui me plaise à moi et qui puisse plaire justement à beaucoup de gens qui ont peut-être une sensibilité similaire à la mienne, je sais pas. Enfin,
par rapport à la construction des vignettes, du scénario, voilà, justement, au lieu de faire une planche complète, tu fais des vignettes. Et alors, quelquefois, c'est vrai que dans les différentes planches d'auteurs, on peut voir qu'il va rajouter une vignette. Toi, tout est fait par vignette. Pourquoi ?
Tout est fait par vignette, comment ça ?
C'est-à-dire que si on regarde par rapport à l'exposition, on voit donc une planche, ce sont que des strips, en fait.
Oui. Oui, mais disons qu'au préalable, je fais d'abord un découpage, donc je sais exactement ce que je vais dessiner en fait à l'avance. Mais après, c'est par des soucis de... Enfin, c'est plus facile de dessiner en strip, c'est plus facile à scanner. Après, c'est juste techniquement, ça m'arrange en fait de découper une planche en strip, en fait.
Voilà, parce que en fait, tu te sers énormément de l'ordinateur.
Oui. je dessine quand même traditionnellement.
Voilà, tu dessines, tu fais en tout cas au moins le crayonné, oui, traditionnellement. Et ensuite, tout ce qui est découpage, décor et tout ça, tout le reste, c'est l'ordinateur.
Voilà. Ça prend beaucoup de temps de faire une colorisation qui soit traditionnelle. Et les outils informatiques permettent de faire des belles colorisations à partir du moment où on y passe un petit peu de temps. Mais c'est beaucoup plus facile, en fait, à la longue, de faire une bande dessinée cohérente au niveau graphique, au niveau couleur, de faire ça à l'ordinateur, en fait.
Et au niveau du scénario, parce que c'était ton premier scénario, finalement.
Oui, édité, on va dire. Voilà, c'est pareil, j'ai déjà fait des petits scénarios. voilà,
donc voilà, ton premier scénario édité, comment ça s'est passé? Parce que là, tout à coup, on est face à... Même si c'est face à son propre imaginaire, on doit le construire sur 128 pages.
Oui, ouais.
Est-ce que ça n'a pas été trop difficile?
En fait, l'histoire a été pas mal modifiée aussi parce qu'au début, je ne savais pas, j'avais pas prévu de faire de one shot, en fait. Parce que là, normalement, il n'est pas censé y avoir de suite, hein, je précise. Là, l'éditeur m'a dit, de toute façon, t'es une jeune auteure, donc là, ce sera forcément un seul volume. Et à la base, je devais faire 100 pages uniquement. Mais j'en ai rajouté une vingtaine en plus pour pouvoir finir mon histoire. Sinon, ça tenait pas, en fait, dessus.
Sans en dire plus, le livre se finit sans donner toutes les réponses.
Y en a plus pas. Enfin, la plupart des réponses, on peut les déduire, en fait.
Voilà, on peut les déduire. Mais tu ne donnes pas tout. C'est-à-dire que tu donnes quand même à réfléchir aussi au lecteur.
Ah oui, pour moi c'est assez important de donner en fait les clés au lecteur et après qu'il lui-même se fasse son opinion. Et c'est vrai que y en a qui n'ont pas interprété l'histoire de la même manière que moi je l'ai conçue. Mais c'est ce qui fait aussi la richesse d'une œuvre, c'est quand on peut interpréter ça de manière différente. Quoi.
Donc on va dire seulement le pitch quand même pour ceux qui ne l'ont pas lu. On est dans un univers, comme tu disais, uchronique, c'est-à-dire que ce n'est pas l'histoire, l'histoire normale qu'on connaît. Il y a une ligue des créateurs qui peuvent le créer des chimères à partir d'un matériel, le matériel zéro.
Oui.
Et un des professeurs a engagé Morphine, une jeune fille blonde, accompagnée elle-même d'une chimère qui s'appelle Fear, qui ressemble à un loup.
Voilà.
Et dans la première partie de l'histoire, on va leur demander de ramener une chimère. Et dans la deuxième partie de l'histoire, nous allons avoir donc le professeur et Morphine qui vont se poser des questions sur la création.
Voilà, c'est un peu le thème de la création.
Voilà, c'est tout à fait le thème de la création. Et donc, c'est pendant 128 pages, avec pas mal d'inventions, un univers visuel graphique assez fort. Et c'est vrai qu'on s'interroge sur plein de choses. Donc, qu'est-ce que c'est que la Ligue des créateurs? Qu'est-ce que c'est que les lois de Velvet?
Oui.
Donc, des lois que tu as inventées, d'ailleurs.
Oui, d'ailleurs, qui peuvent faire penser un peu aux lois de... d'Asimov.
Les lois d'Asimov, les lois de la robotique.
Voilà. Il y a une similarité, effectivement, de ce point de vue-là. Ouais.
Ça faisait passer aussi à Blade Runner. Donc le thème de la création, est-ce qu'on peut être vivant, jusqu'où on peut aller. Voilà, c'est ça à quoi ça nous fait penser. Je pense qu'on est tous d'accord, et donc si ensuite cette interview va jusqu'à l'éditeur, il n'y a pas d'accord, mais alors, Miyazaki, David Lynch.
C'est la phrase d'accroche en fait de mon éditeur, et il en était assez fier, donc maintenant...
Voilà, mais c'est pas ce que t'aurais mis, toi.
Non, mais maintenant je pense que c'est quand même un bon choix, dans le sens où c'est des références que des gens qui ne connaissent pas le manga connaissent.
Oui.
Et je pense que maintenant, même si je vois pas vraiment de référence à David Lynch, je crois que ça parle peut-être, dans le sens, c'est un univers étrange... où il y a peut-être du symbolisme, je ne sais pas. Donc peut-être que ça, pour lui, c'était une association logique, mais c'est vrai que maintenant, David Lynch, je ne sais pas. Je ne dirais pas spécialement que ça ressemble à David Lynch.
Mais... Tu dis avoir de l'admiration pour certains auteurs japonais, au niveau de l'esthétisme, au niveau des couleurs. Est-ce que tu peux en citer quelques-uns?
Des auteurs japonais?
Oui, des auteurs japonais.
En fait, au niveau graphique, ça va plus être des illustrateurs, en fait.
D'accord.
J'aime beaucoup Renge Murata, par exemple.
Oui.
J'aime beaucoup Takehito Arada, qui fait... Ils font pas mal de design de jeux vidéo, on va dire. Au niveau décor visuel, j'aime beaucoup Miyazaki aussi. Voilà. Bon, après, des auteurs de mangas, ça va être plus, en fait, pour la construction de récits. Donc, je suis admirative de... Par exemple, de l'auteur de One Piece, Oda, ou de Togashi, qui fait Hunter x Hunter. Enfin, pour moi, c'est vraiment des shonen qui sont vraiment denses au niveau histoire. Donc là, je suis plus admiratif de la richesse de leur scénario, en fait. Voilà.
Morphine est un univers vraiment à part. La technologie semble avancée, mais les habits et les moyens de transport sont ceux du 19e, début 20e.
Oui, c'est un souci à la fois graphique, plus que... maintenant, c'est aussi parce que... on va dire que c'est une uchronie, en fait. Je voulais donner aussi un côté un petit peu rétro dans l'atmosphère, pour qu'il y ait quelque chose d'un petit peu figé, un petit peu plus... on va dire... qui fasse un peu plus rêver, en fait, qu'un monde moderne... qui n'est pas forcément des paysans, en fait, aujourd'hui.
Tu dis aussi, travaillant l'harmonie colorée et le style afin de construire un univers visuel fort et original. Mais finalement, si je reprends la collection Atmosphère,
oui.
C'est tout à fait ça.
Ah.
Une bande dessinée d'auteur qui prend des risques sur des thématiques complexes et originales et dont la narration visuelle et l'histoire restent accessibles au plus grand nombre.
Oui, c'est vrai, mais c'est une très bonne définition. Et
voilà,
en fait.
Tout à fait.
Oui.
Donc, on est vraiment bien dans l'univers d'Atmosphère. Toutes les indications sont en anglais.
Oui.
Sauf une seule.
Ah.
Redon. À un moment, ils arrivent dans une gare qui est marquée Redon.
Ah oui. Ça, c'est une petite référence à tes amis, en fait.
Bon, d'accord.
Ils voulaient que je case Redon, donc voilà, c'est... Bon.
Alors, musicalement, ton projet de fin d'études, ce qu'en est une berceuse, Marie, et ainsi de suite.
Ouais.
Et ici, il est question de Chimera, What Are You Made Of? C'est quoi? C'est une chanson?
J'ai essayé de créer une espèce de cantine, mais c'est vrai qu'après, je n'ai pas non plus extrêmement réfléchi sur pourquoi. Je voulais juste donner une espèce de mimique en fait, à ce personnage-là, et je la voyais bien chantonner quelque chose. Parce que ça allait bien avec le personnage, en fait, maintenant.
D'accord. Mais il n'a rien à voir avec une chanson qui existe.
Non, je ne crois pas.
D'accord. Moi, j'ai cherché, étant donné que le projet de fin d'études, c'était marqué, oui, on trouve le projet de fin d'études sur Internet. Projet de fin d'études, il y avait donc le Marie, qui est une berceuse anglaise. Je me suis dit, bon, maintenant qu'il y a Chimera, ça doit venir de quelque chose. Donc, j'ai cherché.
J'ai pas trouvé. Mais c'est inspiré, on va dire, voilà. Du continent anglais. Ouais.
Alors, en préface de ton livre... Tu écris exactement en dédicace à mon peuple. Ça veut dire quoi? Que tu n'es pas d'ici?
Non, ça c'est juste parce que j'ai des amis. Parce qu'en fait, je suis née à Lille. Et depuis qu'il y a eu le film Bienvenue chez les Ch'tis, bon, bah, on s'est moqué un petit peu de moi. Parce que du coup, j'étais une ch'timie. Donc du coup, ils disaient toi et ton peuple. Donc du coup, bon, mais c'est une référence plus à des amis. Quoi. C'est pas...
Sur ton blog, pas du tout mis à jour, il est question d'une Bridget, c'est qui?
Bridget?
Oui.
Ah, Bridget, c'est le nom de mon chien, en fait. C'est
d'accord.
Pour ça.
Donc c'est ton chien qui met à jour le blog.
Voilà, c'est ça. C'est un peu... Je délègue un peu.
Alors, Pascal Crossi, un autre auteur des éditions Emmanuel Proust, a un hobby, t'embêter.
Oui, effectivement.
Peux-tu nous en dire plus?
Bah, disons que je l'ai rencontré en festival à Angoulême, et du coup on a un peu sympathisé, et bon bah on s'entend bien, puis bon bah il aime bien m'embêter, effectivement.
Au point d'ailleurs qu'il le met sur internet, j'aime bien embêter Juliette Fournier.
Voilà, je crois que c'est un nouveau, un nouvel auteur que j'ai rencontré, donc qui est fort sympathique, voilà.
Alors, une chose qui pourrait intéresser tout le monde ici, je dis bien tout le monde, ceux qui aiment le manga, ceux qui n'aiment pas le manga, tu l'as dit, je possède plusieurs comptes en Suisse, et c'est le caïman, puisqu'en BD, tout le monde le sait, on devient millionnaire du jour au lendemain. Mais ce n'est pas évident au début de se faire à cette vie de luxe. Alors, je te le dis tout de suite, au Brest Japan Festival, nous serons heureux de partager avec toi cette manne financière pour que ta vie soit plus simple.
Oui, bah, j'imagine que vous aussi devez générer des millions avec...
Au moins.
Oui, donc bon, entre milliardaires, on se comprend, alors, c'est bien.
Alors, ce fut ton premier album édité, est-ce que cette aventure t'a donné envie d'en faire d'autres?
Ah bah oui, bien sûr, c'est une expérience vraiment enrichissante, je suis très contente de voir une réaction positive en fait, du public, et là, j'ai envie de continuer, en tout cas, faire d'autres albums.
Donc est-ce qu'il y en a d'autres qui sont à venir?
Donc un projet en fait, donc après celui-là, de deux albums qui seraient aussi à peu près du même format, des romans graphiques, donc ce sera en deux tomes, mais pour l'instant c'est pas encore signé, donc...
Tu allais dire qu'il est éditeur, mais bon...
Voilà, mais bon, ça devrait être bientôt signé chez le même éditeur, je pense.
D'accord, j'avais entendu parler de scénario aussi que tu ferais.
Oui, alors sinon je suis scénariste sur une bande dessinée qui va aussi sortir chez Emmanuel Proust, qui serait probablement début l'année prochaine, mais je ne sais pas encore de date. Et donc je fais ça avec un ami à moi qui est dessinateur. Et a priori, le titre, ce serait Bunny. Donc ce serait une bande dessinée un petit peu plus sombre, par contre, qui est plus destinée peut-être à partir d'un public adulte, adolescent. Et ce serait à venir dans... Je sais pas, dans les prochains mois en tout cas.
D'accord, bah écoute, merci beaucoup. Je vais demander, est-ce qu'il y a des questions dans la salle?
Alors donc j'espère que ce ne sera pas une question un peu trop compliquée pour le public. Ce sera été plus des questions techniques. Alors savoir au niveau des crayonnés, qu'est-ce que vous utilisez comme outil de base?
Pour les crayonnés, j'utilise un critérium 0,3 avec des fois un critérium 0,5. En fait, c'est vrai que comme je travaille sur du Bristol en petit format, j'essaye d'avoir le trait le plus fin possible en fait, parce que j'encre pas en fait, c'est scanné et après en fait je duplique le crayonné pour avoir un trait plus noir, plus épais, Ce qui fait qu'à la base, mes planches sont pas forcément très lisibles si elles sont mal éclairées, parce que j'appuie pas beaucoup sur le trait pour avoir un trait très fin. Voilà.
Et vous utilisez de la vectorisation sur votre trait, Critérium ?
La vectorisation ?
Oui, c'est-à-dire lisser le trait.
Ah non, pas du tout. Non.
C'est en bitmap.
C'est en bitmap, oui. Voilà.
D'accord. Et au niveau des logiciels, qu'est-ce que vous utilisez en fait
Moi, j'utilise Photoshop en fait.
Photoshop
juste Photoshop, et je fais la colorisation en fait à partir de calques, où je mets je fais un calque transparent avec le tracé qui sert en fait de cerner, et après je pose la couleur en aplat sur des calques en dessous en fait.
D'accord. Donc pour votre façon de scénariser, comment vous construisez vos histoires?
J'écris d'abord un synopsis, on va dire, de deux pages qui résumerait un petit peu l'histoire dans sa globalité. Et après, j'étoffe, je commence par faire des scènes de dialogue. Je modifie beaucoup de fois, en fait. C'est vraiment un travail préliminaire assez long, parce qu'il faut prendre du recul, il faut relire ces dialogues, il faut essayer après d'imaginer ça visuellement, qu'est-ce que ça peut donner, faire des interactions entre les scènes. C'est juste un travail qui demande beaucoup de temps, en fait. Et voilà.
Est-ce que vous faites des brouillons aussi avant les planches finales?
Oui, je fais des planches de découpage en fait, où je choisis en fait les cadrages de mes cases en fait. C'est un gros plan, un plan américain, un plan éloigné. Enfin, j'essaye que tout soit un petit peu près varié et que ça puisse se lire très bien en fait. Que ce soit très lisible.
Merci beaucoup. Le reste du public, si vous avez des questions.
Bonjour. Alors, simple question. Ouais. On peut voir justement sur le blog ou sur le DeviantArt des fan art de jeux vidéo.
Oui.
Beaucoup d'illustrations. Est-ce que ça serait éventuellement avoir la possibilité de travailler un jour en tant qu'illustration dans le jeu, illustratrice dans le jeu vidéo?
Ah j'aimerais beaucoup. Mais maintenant, c'est pourquoi pas un jour si j'ai des propositions. C'est vrai que moi, ça me plairait beaucoup de travailler effectivement graphiquement. En tant que directrice artistique, ouais, sur un jeu vidéo, ce serait vraiment très bien.
D'accord. Bon. Voilà.
Ouais. D'autres questions dans le public? Non. Dans ce cas-là, on va s'arrêter là.
Ouais.
Pour ceux qui le désirent, donc Juliette fera une dédicace à l'étage, où il y a donc justement, vous pourrez admirer les planches. Voilà. Merci beaucoup, à tout de suite.
Au revoir.